Voix Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Ouagadougou, 13h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Au Mali, étonnement ou colère chez de nombreux Maliens, selon l'AFP, face à la création par l'ONU d'une zone de sécurité autour de la ville de Kidal, dans le nord du pays. Interdite d'accès jusqu'à nouvel ordre aux groupes pro-gouvernementaux après des combats meurtriers entre ces mouvements et la rébellion. Plus de détails sur la situation avec notre correspondant à Gao, Boubacar Touré.
Des affrontements armés ont opposé la coordination des mouvements de l'Azawad et le Gatia, membres de la plateforme, ces trois derniers jours dans la région de Kidal, respectivement autour de l'ouest de Touzik, au sud-est de Kidal et à Amassine à l'est, et sur l'axe Tabankor-Anafis entre Gao-Kidal. Le bilan provisoire est lourd, 12 morts et plusieurs blessés et des véhicules détruits. Les deux groupes se renvoient à la responsabilité de la violation du cessez-le-feu obtenu en juin dernier après des accords arrangés. Selon des sources bien informées, les deux groupes armés du nord se font la guerre pour le contrôle de l'axe Tabankor-Anafis, très favorable au trafic de drogue et d'armes. La MINUSMA confirme l'envoi d'une équipe mixte d'observation et de vérification vers Anafis pour établir les faits. La mission des Nations Unies au Mali condamne dans les termes les plus fermes ces actes commis en violation flagrante des accords de cessez-le-feu et de l'accord de paix et de réconciliation nationale pour le Mali. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, le CODJEP, le mouvement de Charles Blé Goudé, ancien patron des Jeunes Patriotes, a été transformé ce week-end en parti politique. Selon les dirigeants de ce parti, Blé Goudé, aujourd'hui détenu à la Cour pénale internationale à La Haye, n'a pas d'ambition politique, mais veut seulement militer pour la paix. Au micro de Bagassi Koura, les explications de Didier Despris, secrétaire général du journal ivoirien Notre Voix, proche de l'ancien président Laurent Gbagbo.
Ce n'est pas du tout une surprise, puisque depuis plusieurs mois, on savait que ce congrès se préparait. On savait que l'initiative avait été prise par Charles Blé Goudé, qui avait déjà reçu il y a 2 ou 3 mois un certain nombre de dirigeants du COGEP.
Depuis sa cellule à La Haye, il reçoit des membres du COGEP.
Oui, à La Haye, il reçoit les membres du COGEP. Il y a même eu un séminaire qui a été organisé à La Haye par le COGEP de la diaspora. Blé Goudé, bien qu'il soit détenu à La Haye, ne perd pas de vue les activités politiques de la Côte d'Ivoire et surtout l'évolution de sa formation politique, le COGEP est devenu une formation politique de plein exercice.
Didier Despris, secrétaire général du journal ivoirien Notre Voix à Abidjan. Au Sénégal, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar accueille chaque année des milliers de bacheliers, mais il est difficile pour les autorités de caser tout ce beau monde. Et les étudiants se retrouvent parfois à 6 ou même plus dans une petite chambre avec un lit. Les amphis sont également insuffisants et les bourses en retard, d'où la rogne et la grogne dans les milieux universitaires. Le point avec notre correspondante à Dakar, Sokna Nata.
Un monde fou, on se croirait dans une ruche d'abeilles. Aussi bien le campus social que celui pédagogique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ne désemplissent pas en cette période de l'année. Donner une chambre, un lit, nourrir et transmettre un savoir à ces milliers d'étudiants en vrai casse-tête. Au pavillon D, dans une chambre exiguë, se bouscule un petit lit, un ordinateur et un placard. Dans un coin, un lavabo. Idrissa est étudiant au département d'histoire en Master 1.
On avait détruit 3 ou 4 pavillons et ces pavillons contenaient plus d'étudiants que ces pavillons qu'ils viennent de construire là. Les conditions dans les amphis ne sont pas encore adéquates. Fac droit, il y a des étudiants qui confectionnent des sièges pour aller suivre les cours.
Difficile d'étudier dans ces conditions avec surtout le chevauchement des années universitaires. Pour le logement, le 31 juillet dernier, le président Macky Sall avait inauguré 2 nouveaux pavillons avec une capacité de 1044 lits. Il a été hué et accueilli par des jets de pierre. Pour Khalifa Diagne, responsable au Centre des œuvres universitaires de Dakar, les critères d'attribution de logement doivent être revus.
Ce sont les critères d'excellence, en grande partie, parce qu'il y a une partie mais que je considère comme marginale, qui est réservée aux critères sociaux. Et je rappelle que pour les critères sociaux, il y a les étudiants handicapés, mais il y a d'autres étudiants aussi qui en bénéficient.
La bourse universitaire, le motif de grève le plus récurrent à l'UQAD. Des étudiants comme Suleiman n'ont toujours pas reçu leur bourse et attendent depuis plusieurs mois.
Je pensais que ça ne devait plus être un problème, puisque on s'inscrivait à 10 000 francs. Maintenant, c'est à 50 000, 25 000 francs.
Pourtant, le ministre de l'Enseignement supérieur parle d'un changement positif dans cette université concernant surtout le paiement des bourses. Marie Taounian.
Pour la première fois depuis plus de 30 ans, du mois de novembre au mois de juillet, les bourses ont été payées régulièrement avant la fin de chaque mois.
Aujourd'hui, il est difficile pour ces étudiants de parler de leur précarité. Avant, il existait des amicales dans chaque faculté, mais une bonne partie a été supprimée. armée. Plusieurs étudiants doutent même de l'efficacité de ces mouvements étudiantins.
On ne peut pas parler de syndicalisme. Chacun pour soi, Dieu pour tous.
Comme solution, certains avaient proposé la fermeture temporaire de l'établissement. Mais Yves, ancien responsable d'Amical, n'adhère pas à cette idée.
C'est condamner ces étudiants au chômage et ils vont désapprendre. Ça aura un impact négatif sur l'économie du Sénégal.
Remettre l'UCAD sur les rails risque de prendre du temps et les étudiants n'en ont pas. Certains ont perdu des années d'études et d'autres plus. C'est le cas de Bassirou Faye, tué lors de violentes manifestations le 14 août 2014. Sornana Tambay, Dakar, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Crise au Burundi, beaucoup de Burundais ont cherché refuge au Rwanda pour échapper aux violences dans leur pays. Coup de projecteur sur leur situation avec notre correspondant à Kigali, Maurice Magorané.
Plus de 101 personnes ont fui le Burundi vers le Rwanda voisin. Parmi eux, il y a les leaders de l'opposition, les membres de la société civile et les journalistes. Ils racontent tous la même histoire. Victimes de menaces, d'autres ont été victimes des attaques des groupes armés. C'est le cas du journaliste Jean-Baptiste Bideha de Bonesha FM qui a reçu une balle dans la poitrine. Les journalistes ne sont pas les seuls à avoir été contraints à l'exil. Le Rwanda est belge, également pas mal de politiciens burundais exilés, dont Chauvinet Mugwengwezo de IPD Zigamibanga, qui compte continuer sa lutte même en dehors de son pays. Politiciens, journalistes et membres de la société civile, ils ne comptent pas baisser les bras dans leur exil. Ils continuent à militer. Maurice Magorané, VOA Afrique, Kigali.
Conflit du Soudan du Sud, pas de conclusion d'accord de paix hier soir à Addis Abeba entre le gouvernement et les rebelles sud-soudanais. Le président Salva Kiir refusant pour le moment de signer le document proposé par la médiation sous-régionale de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement de l'Afrique de l'Est. Accord soutenu notamment par l'Union africaine et les États-Unis. Eric Manirakiza.
C'était une opportunité pour nous de mettre fin à la guerre, dit Riek Machar, chef rebelle, en affichant sa satisfaction d'avoir signé le texte d'accord malgré des imperfections, parce que, affirmait-il, veut que la guerre cesse. Pour lui, aucune raison ne peut expliquer un délai supplémentaire demandé par le président Salva Kiir, mais dit espérer le voir revenir sur sa décision. En dépit de son opposition, M. Salva Kiir a participé à cette cérémonie d'Addis Abeba, non complète sans la signature du gouvernement selon les termes du médiateur en chef, Seyoum Mesfin, car Pagan Amom, secrétaire général du parti au pouvoir dont fait partie Salva Kiir, l'a signé. En cas de refus catégorique de signer l'accord, le gouvernement risque de sanctions ciblées, entre autres, un embargo sur les armes, des interdictions de voyager et des gels d'avoir à l'étranger.
Et pour terminer ici aux États-Unis, on continue de rendre hommage à Julian Bond, grande figure du mouvement pour les droits civiques, décédé samedi dernier en Floride à l'âge de 75 ans. Au micro de Nicolas Pinault, les explications de John Whittington, directeur adjoint du Musée national d'histoire et de la culture africaine-américaine à Washington.
Il vient d'une famille d'éducateurs très très célèbre, Max Bond. Et lorsqu'il était très jeune, il a commencé à manifester. Déjà avant l'âge de 20 ans, il était actif. Il a quitté l'université pour se mettre dans la lutte pour les droits civiques. Il a fondé aussi une institution très importante, le Southern Poverty Law Center, un centre qui est focalisé sur les issues juridiques. Qui est en danger? Quelles lois sont en danger à l'heure actuelle? Il a fondé cette organisation. Il était président de 71 à 79.
Quel héritage laisse Julian Bond?
Il laisse un héritage d'activisme pour toute la vie. Vous n'avez pas le droit d'aller à la retraite s'il y a un problème auquel la nation fait face. Il faut toujours communiquer dans une société comme les États-Unis.
Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un cocktail paradoxal? Un premier président africain-américain, Barack Obama, à la Maison-Blanche, et en même temps, les discriminations qui persistent et ce grand débat sur les violences policières contre la communauté noire?
Oui, c'est un cocktail paradoxal, mais c'est la réalité des États-Unis à l'heure actuelle. Étant noir, marchant dans la rue ou conduisant, vous êtes toujours en danger. Et en même temps, il faut agiter du côté des élections à tous les niveaux, municipal, à l'échelle des États et à l'échelle nationale pour assurer les droits civiques.
John Whittington, directeur adjoint du Musée national d'histoire et de la culture africaine-américaine à Washington. Et pour terminer, dégradation de la situation sécuritaire en Ukraine, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, dénonce le regain de tensions dans le pays où au moins 10 personnes, pour la plupart des civils, ont péri en 24 heures dans les affrontements les plus meurtriers depuis un mois. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.